On va se courber ensemble dans un mot de prière. Bien, Père éternel, nous venons devant toi, Seigneur, parce que tu es le Créateur. Tu es celui qui nous a donné la vie, celui qui maintient toute chose, qui tient l'univers, Seigneur, dans cet équilibre qu'on sait et qu'on mesure de plus en plus fragile, même sur cette terre. Nous mesurons de mieux en mieux, Seigneur, la fragilité de cet équilibre que tu as créé afin que nous puissions, Seigneur, nous épanouir sur cette terre. Et on vient à toi parce que tu es le Créateur. C'est toi, Seigneur, qui est derrière tout cela. C'est toi qui nous as donné même la neige pour Noël, Seigneur, cette année, parce que nous croyons que tu es souverain. Souverain sur nos vies, souverain sur les éléments de la nature, souverain, Seigneur, sur nos destinées à chacun d'entre nous. Et nous voulons venir t'adorer ce matin, Père. T'adorer parce qu'on arrive à cette fête de Noël. Cette fête qui est tellement précieuse, Seigneur, à qui peut saisir le sens de Noël? Tellement précieuse, Seigneur, parce que il y a 2000 ans, ou à peu près, Seigneur, tu es venu, et d'un Dieu invisible, tu t'es fait visible, Seigneur. D'un Dieu peut-être abstrait, tu es devenu extrêmement concret, Seigneur. Et je veux te bénir pour ta venue, Jésus-Christ, pour tout ce que tu as fait, tu es vraiment merveilleux. Je te prie, Père, de venir nous rencontrer ce matin alors que nous nous penchons sur ce passage de l'Évangile de Jean pour essayer de saisir davantage le sens de Noël et que nous puissions vivre cette fête cette année, Seigneur, avec toute la richesse merveilleuse qu'il y a dans ce texte, dans cet événement pour nos âmes, Seigneur, pour nos vies personnelles. Je te prie de venir nous bénir ensemble, de nous accompagner alors que nous allons aller dans nos familles dans les prochains jours, visiter des amis, nous allons croiser des gens, Seigneur. Je te prie de bénir notre témoignage dans ces moments-là, que nous puissions, comme toi, Seigneur Jésus, ouvrir la bouche pour faire connaître Dieu. Comme toi, Seigneur, être un témoin vivant par nos attitudes, nos actions, Seigneur, et représenter le nom de Jésus-Christ. J'aimerais te prier, Père, aussi, pour ceux qui vont être seuls pendant les fêtes. Car plusieurs, Seigneur, vont souffrir de solitude. Certains vont revivre des souvenirs parce qu'ils ont perdu des proches. On pense à quelques décès déjà dernièrement, Seigneur, au sein de l'Église ici. Je prie, Père, d'amener ta consolation. Parce que la naissance de cet enfant, c'est un moment de consolation. Et permets, Seigneur, que nous soyons là les uns pour les autres en Église, à prendre soin les uns des autres afin que personne ne souffre de solitude. Mais Seigneur, on a surtout besoin que toi, tu sois avec nous par ton esprit. Que par ton esprit, tu viennes nous faire entrer dans cet esprit de la naissance de ton Fils, afin de vivre cette joie profonde, de savoir qu'Emmanuel, Dieu parmi nous, est bien réel. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Je me préparais pour cette prédication-là, et puis je me demandais, ça fait 17 ans ou à peu près que je prêche à Noël, quelque chose comme ça, puis toujours je me dis, OK, qu'est-ce qu'on peut travailler à comprendre mieux du sens de Noël? Et j'ai pensé à aller dans Jean parce que vous m'avez entendu le répéter à quelques fois cette année, je trouve qu'un des défis pour la foi, c'est de croire dans un Dieu invisible. Et lorsqu'on parle avec des gens de la foi, les gens vont nous parler qu'ils cherchent Dieu, qu'ils essaient de trouver Dieu, mais que Dieu est difficile à trouver. Parce que Dieu est invisible. Et évidemment, il y a toutes sortes de religions sur la terre, alors il y a toutes sortes de personnes qui font des démarches pour essayer de connaître, de saisir Dieu. Et donc, Dieu peut sembler très mystérieux, assez abstrait, assez peu concret. Je pense même des fois à nos enfants qui nous regardent prier. Je ne sais pas si vous avez, peut-être que vous-même, vous n'êtes pas chrétien, mais dans votre famille autour de vous, vos parents, votre conjoint, vos frères et sœurs sont chrétiens. Et lorsque vous les regardez prier, ça m'arrive de penser à ça, je me dis, quand quelqu'un qui n'est pas chrétien me regarde prier, à quoi il pense? Qu'est-ce qu'il est en train de se dire? Il se ferme les yeux, puis il y a une espèce de moment où il fabule, puis il s'imagine qu'il est en train de parler à un être quelconque qui est là, mais c'est le fruit de son imagination, c'est une espèce de trip psychologique qu'il est en train de vivre là. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui l'écoute? Parce que ce Dieu-là demeure invisible. Alors, c'est quand même une difficulté avec Dieu, le fait qu'il soit invisible. Et on va parler de chercher Dieu. Essayer de trouver Dieu. Et c'est ça que je trouve de génial avec Noël. Ce que je trouve d'extraordinaire avec Noël, c'est qu'à Noël, nous célébrons le moment où Dieu est devenu très, très concret. Il est passé d'un simple esprit à quelqu'un dans chair et en os, à un être humain en chair et en os. En naissant comme un petit enfant, Dieu est venu à nous très concrètement. Et ça, ça change tout dans notre démarche pour trouver Dieu. Comme on va le voir ensemble ce matin, Dieu n'est pas si loin et abstrait qu'on pourrait le croire, même s'il demeure invisible encore aujourd'hui. Il est très réel et concret lorsqu'on connaît Jésus-Christ, lorsqu'on connaît la personne de son Fils. Et j'aimerais ça vous lire Jean 1, les versets 1 à 18. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'évangile de Jean, c'est l'évangile qui est le plus, le plus mystérieux un peu. Et ce passage-là est certainement le plus mystérieux de tout l'évangile de Jean, d'accord? Alors, si au début vous dites, « Oh boy, ça a de l'air philosophique cette affaire-là », stick with me, restez avec moi jusqu'à la fin, là. Plus on avance dans le texte, plus ça se clarifie, d'accord? Alors, Jean 1, versets 1 à 18. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. » Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, « Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité nous sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Premier élément que je voudrais souligner avec le passage, que moi je retire de ce passage-là, c'est qu'on n'a pas à chercher Dieu à tâtons. Parce que Dieu le Fils est venu pour nous faire connaître Dieu. Maintenant, comme j'ai mentionné, l'introduction de Jean est un peu mystérieux. Il commence avec des termes, des concepts qui sont même peut-être empruntés un peu à la philosophie grecque de l'époque. Cette idée qu'il y a une parole. On trouvait chez les philosophes grecs de l'époque cette idée que le logos, en grec c'est le logos qui est là, le logos était le principe organisateur de l'univers, le logos était le principe même de la perfection, et on voit Jean ici utiliser un terme contemporain de l'époque, mais en même temps un terme qui évoque beaucoup d'autres choses dans les Écritures, parce qu'au commencement, nous dit la Genèse, dans Genèse 1, Dieu créa comment? Par sa parole. Dieu dit et la chose fut. Et donc, je pense que Jean est surtout en train de faire allusion à cette parole qui est présente au tout début à la création. Mais le texte est quand même mystérieux au début. Il nous parle d'une parole qui est là, une parole qui était au commencement, qui était avec Dieu, qui était pas seulement avec Dieu, mais qui était Dieu aussi. Alors, on sait pas trop de quoi il est en train de nous parler. Et puis, on avance un peu dans le texte lorsqu'on arrive au verset 6 à 9. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Hop, là, il est question de lumière maintenant. Alors, c'est plus l'image de la parole maintenant qui est utilisée, mais l'image de la lumière. Verset 8, « Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » C'est quoi cette lumière-là? Tantôt, on parlait de la parole, maintenant, on parle de la lumière. Et les choses se clarifient lorsqu'on arrive au verset 14, en réalité. Puis ça va aller de plus en plus clair jusqu'à la fin du, ce qu'on appelle le prologue, d'accord? C'est l'introduction de Jean, les versets 1 à 18, le début de l'évangile de Jean. Verset 14, oh, les choses commencent à devenir pas mal plus claires. Et la parole a été faite chair, elle est devenue humaine, elle a pris une forme humaine, cette parole-là. Elle a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Maintenant, il est question de Fils unique. Les choses commencent à se préciser, de qui est-ce qu'on parle ici, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Verset 17, j'aurais dû commencer avec le verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. À la toute fin du prologue, Christ apparaît. Et cette parole qui est là, qui nous est dit qu'elle était au commencement avec Dieu, avant même que toute chose existe. Elle était avec Dieu et elle était Dieu. Cette parole-là est la lumière des hommes, c'est celle qui vient pour nous éclairer. Mais cette parole-là a pris une forme humaine. Elle a pris chair, elle est devenue un être humain comme nous. C'est Jésus-Christ qui est né un jour de Noël, il y a près de 2000 ans. Et au verset 18, sa mission nous est donnée. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. On n'a pas à chercher Dieu à tâtons. Depuis la venue de Christ, Dieu n'est plus simplement esprit. Et cette dimension très abstraite de la personne de Dieu, elle est en arrière parce que Christ est venu, il s'est incarné. Vous savez, lorsqu'on pense à Dieu, on pense à un esprit, on pense à quelqu'un qu'on ne peut pas voir. Et si vous êtes familier un petit peu avec l'Ancien Testament, bien dans l'Ancien Testament, Christ n'est pas venu encore. Noël, c'est le début du Nouveau Testament, si je peux dire. Alors, dans l'Ancien Testament, Jésus n'est pas encore là. Et effectivement, dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple juif rencontrait Dieu, lorsqu'un prophète entendait Dieu, c'était par moment. C'était des moments où il y avait une apparition angélique, il y avait ce qu'on appelle une théophanie, il y avait une apparition de Dieu à travers la nuée, par exemple. Et donc, pendant quelques instants, quelques heures, un être humain était en présence de Dieu et pouvait dire plus que « t'es un esprit, je peux pas te toucher ». Non, ils voyaient, ils expérimentaient avec leur sens quelque chose qui leur disait que Dieu était là. Mais dans tout l'Ancien Testament, tous ces épisodes-là, C'est très court. Alors, Dieu demeure esprit. Il y a quelque chose d'assez abstrait à la personne de Dieu. C'est vrai, on a sa parole, on a des miracles, on a toutes sortes de choses comme ça, mais quand même. Et vient ce jour enfin. Ce jour où Emmanuel, dont on a parlé la semaine dernière, vient sur la terre. Celui qui est Dieu le Fils prend une forme humaine. Et se révèle aux hommes. Et sa mission, Jean nous dit au verset 18, sa mission est de nous faire connaître le Père. À partir de la venue de Jésus-Christ, on n'a plus à chercher Dieu à tâtons. En se disant, oui, mais mes amis chrétiens, lorsqu'ils prient, là, ils s'adressent à qui? Parce que personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils l'a vu. Dieu le Fils l'a vu. Il est venu nous parler de lui. Et donc, Dieu est devenu extrêmement concret au moment où il est venu par son Fils sur la terre. Personne n'a jamais vu Dieu, sinon Dieu le Fils. Qu'est-ce qui permet à Jésus de prétendre qu'il connaît tellement Dieu? Est-ce que c'est un autre ange qui arrive? Est-ce que c'est une autre apparition? Dans ce passage-là, Jean nous dit que Jésus est beaucoup plus qu'un ange. Jésus est beaucoup plus qu'une apparition quelconque de Dieu. Il est Dieu venu sur terre. Regardez avec moi le verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je l'ai mentionné tout à l'heure dans l'Ancien Testament, lorsqu'on va dans la Genèse puis on regarde la création. Dieu crée par sa parole. Puis c'est étrange, la première fois que tu dis ça, OK, c'est Dieu. Ouais, Dieu peut commander. Il veut que la chose soit, boum, elle apparaît. C'est comme ça que ça fonctionne. OK, mais pourquoi est-ce qu'il a fait les choses comme ça? Parce que le Fils est là. Le Fils est là. Le Fils est l'expression même de Dieu. Et lorsque Dieu parle, c'est Christ qui parle. C'est le Logos, la parole qui est en train de parler. Donc, ce que Jean nous dit ici, c'est que ce bébé-là qui est né est en fait la parole de Dieu même, est en fait Dieu lui-même. Il est Dieu, il était là depuis le début avec le Père. C'est pour ça qu'on parle de la Trinité. Si vous vous êtes toujours demandé pourquoi les chrétiens parlent de la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, bien, elle apparaît ici, la Trinité. Parce que j'ai ce Dieu-Fils qui est là, cette parole qui est avec Dieu, qui est lui-même Dieu. Au verset 3, il nous est dit, « Toutes choses ont été créées par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. » Je vous pose une question. Est-ce que c'est Dieu qui a créé toutes choses ou est-ce que c'est Jésus qui a créé toutes choses? Est-ce que c'est Dieu qui a créé toutes choses ou est-ce que c'est le Fils qui a créé toutes choses? Amen, amen. Oui, oui. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Dieu, le Fils, a créé toutes choses. Et donc, j'ai ce petit bébé-là qui est une incarnation de Dieu. C'est ce que Jean me dit ici. Il savait donc de qui il parlait lorsqu'il parlait de Dieu. Verset 4. « En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. » De cette parole, de cet être-là, le Fils de Dieu, de lui découle toute la vie. Voyez-vous, on ne parle pas d'un ange, on ne parle pas d'un autre prophète, parce que souvent lorsqu'on pense au christianisme, on va dire, ben, OK, Jésus, c'est un homme sage, j'ai lu les évangiles, c'est génial, écoute, il a apporté la paix aux hommes, il nous a enseigné à aimer nos ennemis, il nous a enseigné à faire du bien, à prendre soin des pauvres. J'aime l'éthique de Jésus, c'est vraiment hot. Puis il y a toutes sortes de grands prophètes comme ça dans toutes sortes de religions. C'est pas ce que Jean avait compris de Jésus lorsqu'il l'a rencontré. Ce que Jean a reconnu en Jésus, c'est qu'en lui, de lui procédait toute la vie. Ça veut dire que le prophète de toute autre religion a reçu la vie de Jésus lui-même. Voyez-vous, ça le met dans une classe à part. Et si je dis ça, c'est pas pour essayer de dire « le christianisme est plus haut que les autres religions ». C'est pas vraiment ça la question, c'est que je comprends pas le christianisme tant que j'ai pas saisi qui est ce personnage-là, ce petit enfant-là qui naît. De lui procède la vie, toute la vie que vous rencontrez, chacune des vies qu'il y a dans cette salle, chacune des vies végétales qu'il y a autour de nous, chacune des vies animales qu'il y a autour de nous, de lui procède la vie. Et lorsque j'arrive au verset 18, bien Jean va carrément dire au verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Il est Dieu, le Fils. C'est pourquoi il peut nous parler du Père. Il connaît cet esprit qui est invisible pour nous, que nous, on n'est pas capable de voir. Tu regardes la foi de tes parents, de tes amis, tu les écoutes prier, tu les regardes prier, puis ils parlent à cet être invisible-là. On vit la même chose comme chrétiens constamment. Vous savez, les plus sceptiques, ce sont souvent les chrétiens. Moi, en tout cas, je suis un grand sceptique. Parce que je vis des moments où je suis là, puis je dis, « Seigneur, j'ai besoin de te voir dans ma vie, j'ai besoin de te voir agir, tu es tellement invisible. J'ai besoin de te voir intervenir dans ma vie. » Je l'ai vu, moi aussi, cette réalité-là. Mais cet être invisible-là, de lui est venu son Fils, Dieu le Fils. Et le jour de Noël, le jour de sa naissance, le Dieu invisible est devenu visible. Il est devenu un Dieu visible qu'on pouvait toucher, qu'on pouvait rencontrer. Plus tard, lorsqu'il va prendre la parole, il va commencer à enseigner. Très jeune, il va aller au temple, il va commencer à enseigner au temple. C'était Dieu, le Fils, Dieu incarné. Maintenant, Jean nous dit ici que Jésus est la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il nous parle de Dieu aussi. Lorsque Jésus est venu, il s'est incarné, il a enseigné comme aucun autre homme a enseigné auparavant. Voilà une semaine, j'étais en train de lire une entrevue avec un grand romancier. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui connaissaient Éric-Emmanuel Schmitt? Ça vous dit quelque chose? La part de l'autre, un excellent romancier. Il a une plume vraiment fantastique. Et puis, j'étais en train de lire une entrevue avec lui. Et Éric-Emmanuel Schmitt était athée. Il venait d'un contexte vraiment athée, professeur de philosophie, essayait de trouver dans la philosophie l'explication à toute chose, au sens de la vie, tout ça. Et il a vécu une expérience à un certain moment donné, puis tout d'un coup, assez brièvement, je vous le conterai peut-être un jour, il est devenu croyant. Et je pense pas qu'il est chrétien, d'accord? Mais vraiment, c'était déjà un bouleversement énorme pour lui de dire qu'il y a plus de sagesse et de certitude à se placer du côté de la foi que du côté athée. D'accord? C'était tout un cheminement. Et donc, il s'est mis à lire. Il s'est mis à lire sur toutes les religions. Et puis, il raconte là-dedans qu'il a lu les évangiles. Et là où il s'est le plus retrouvé, là où il a le plus été interpellé, c'est dans les évangiles. Parce que voyez-vous, lorsque les gens écoutaient Jésus enseigner, ils avaient l'impression que Dieu était en train de parler. Il enseignait avec une sagesse inégalée. Il enseignait avec une autorité incomparable. Et quand les gens l'écoutaient parler, ils entendaient parler de Dieu. Jésus est la parole de Dieu, pas seulement au moment de la création, lorsqu'il est là et qu'il crée avec son Père, mais il est la parole de Dieu parce qu'il est venu sur la terre pour nous parler de Dieu, pour nous faire connaître Dieu à travers ses enseignements. Donc cet être qui est invisible, qui n'est pas concret, que j'ai de la difficulté à saisir, lorsque je vais écouter Jésus, quand je vais lire dans les quatre évangiles les paroles de Jésus, je commence à entendre parler de Dieu comme jamais même dans tout le reste des Écritures. Comme chrétien, je crois que toute la Bible est la parole de Dieu. Mais il y a quelque chose de particulier dans la révélation au fur et à mesure qu'on avance dans la Bible, lorsque j'arrive dans les évangiles et j'arrive devant Jésus et je l'écoute enseigner. Dieu devient extrêmement concret, sage, bon, compatissant, saint. C'est difficile de ne pas être attiré par les paroles de ce personnage-là. Et c'est simple. Sa sagesse ne venait pas d'ici-bas. Sa sagesse venait d'en haut. Plus tard, dans l'évangile de Jean, il va dire, « Tout ce que le Père fait, je le fais. Tout ce que le Père dit, je le dis. Et tout ce que je dis, c'est le Père qui m'a dit de le dire. » Et les gens voyaient ça, puis ils étaient intrigués. Même ceux qui voulaient lui résister n'arrivaient pas à lui résister. Mais non seulement Jésus est la parole de Dieu. Excusez, un petit rhume. Un petit rhume. Jésus est l'incarnation de Dieu. Ben, coudonc. On va clarifier ça tout de suite, c'est pour moi la parole de Dieu. J'ai un chat dans la gorge. Jésus est l'incarnation de Dieu. Regardez avec moi le verset 14. C'est le verset 14 qui m'a donné le goût, en fait, d'aller prêcher sur Noël à partir de ce passage-là. Parce que, comme je dis, Dieu est invisible jusqu'à la venue de Jésus. Puis lorsqu'on arrive au verset 14, voici ce qu'il nous est dit. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Lorsque Jésus naît, Dieu commence à marcher au milieu des hommes. Dans l'évangile de Matthieu, il nous est dit, le nom qu'on allait lui donner, c'est Emmanuel, Dieu parmi nous. Jésus nous révèle Dieu, pas seulement par ses paroles. Incroyable, c'est vrai, mais pas seulement par ses paroles, par sa manière de vivre, par sa manière d'être. Dans l'Ancien Testament, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait des apparitions de Dieu, d'accord? Puis probablement qu'un de ceux qui a eu le plus de manifestations de Dieu, c'est Moïse. Moïse était un grand prophète, il avait une proximité avec Dieu, je pense, inégalée dans l'Ancien Testament. Et donc, il avait cette possibilité d'entrer dans la présence de Dieu et de s'adresser à Dieu. Mais on est dans l'Ancien Testament, alors Dieu est invisible. Et à quelques moments, Dieu va se manifester de différentes manières. Dans Exode 33, au verset 18 et suivant, je vais vous lire le passage. Voici ce que Moïse dit. « Fais-moi voir ta gloire. » Il est avec l'Éternel, puis l'Éternel lui dit, « T'es mon serviteur, j'ai confiance en toi, tu vas conduire mon peuple. » Puis Moïse, qui s'adresse toujours à cet être-là invisible, il dit, « OK, je suis ton serviteur, je veux que tu me fasses une faveur. Je veux voir ta gloire pour une fois. » Et donc, il s'adresse à l'Éternel et lui dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, toujours dans Exode 33, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Il faut savoir que Dieu est saint. Dieu est parfaitement saint. Et nous sommes pécheurs. Et aucun homme, aucun être humain peut simplement se présenter devant la face du Père, de Dieu le Père, et vivre comme ça. Alors, il lui dit, regarde, tu vas passer, puis ma gloire, ma face va t'être cachée, mais tu vas voir ma gloire, tu vas m'entendre proclamer ma gloire aussi. Et il lui dit, je poursuis dans le texte, l'Éternel dit, « Voici un lieu près de toi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est saint, parce que nous sommes pécheurs, parce que Moïse serait mort foudroyé sur le champ s'il avait vu Dieu. Et c'est l'expérience qui nous a rapporté à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, des expériences mystiques où des gens ont été dans la présence de Dieu et certains d'entre eux vont dire, c'est sûr que je vais mourir parce que j'ai été dans la présence de Dieu. Malheur à moi! Des fois, on a l'impression que Dieu est tellement petit que c'est comme si c'est notre chum. Non, c'est Dieu! C'est celui de qui procède toute la vie. Mais voilà, quand j'arrive dans Jean, j'arrive au chapitre 1, verset 14, et regardez bien maintenant la lumière de ce que je viens de vous lire dans Exode, regardez bien ce que Jean dit ici. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. » Moïse avait demandé quoi? « Fais-moi voir ta gloire. » Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean a écrit ça après avoir rencontré Jésus, après avoir vu Jésus mourir sur la croix, après l'avoir vu ressusciter. Il commence à mettre toutes les pièces de ce casse-tête-là ensemble après avoir reçu l'Esprit Saint même. Et il saisit des choses sur Jésus et il dit, « OK, Jésus, c'était Dieu le Fils qui marchait au milieu de nous, qui vivait au milieu de nous, qui était là tous les jours. C'était un être humain, hein? Qu'ils ont mangé avec lui. Je ne sais pas s'ils sont descendus dans la rivière pour aller prendre leur bain. Je ne sais pas exactement comment ça marchait, mais vous voyez, il était avec lui à tous les jours. Puis Jésus ne se promenait pas avec une espèce, vous rappelez les statuettes avec un auréole au-dessus de la tête, tout ça. Jésus ne se promenait pas comme avec un auréole au-dessus de la tête tout le temps, tu sais. Jésus, c'était un homme. Fait qu'il vivait avec lui, normalement. Mais quand Jean repense à tout ce qu'ils ont entendu sortir de la bouche de Jésus, à tous les miracles qu'ils l'ont vu faire, aux attitudes qu'il avait lorsqu'il entrait en interaction avec les gens, comment il avait touché un lépreux, comment il avait accueilli la femme adultère, la femme qui allait être lapidée à cause de son adultère, de sa prostitution. Lorsqu'il repensait à tout cela, il dit « On a contemplé sa gloire ». Et certainement qu'il y avait allusion aussi à ce moment de transfiguration sur la montagne. Mais quotidiennement, ils ont vécu en présence de la gloire de Dieu à travers la vie de Jésus-Christ. Alors voyez-vous, non seulement Dieu est venu au milieu de nous de manière très concrète en s'incarnant, en devenant ce petit enfant-là, mais en plus Jésus nous a fait connaître le Père en nous parlant de Dieu. En nous parlant du Père. Et lorsqu'on lit ses enseignements, on découvre Dieu dans toute sa beauté. Et enfin, Jésus nous a fait connaître Dieu par sa vie, par sa manière de vivre, par sa manière d'être, par sa manière de se comporter, par son attitude. Tant et si bien que lorsqu'il va être sur cette croix et qu'il va mourir sur cette croix, Le centurion, le centenier qui est là, qui est un soldat romain, qui n'était pas un de ses disciples, simplement par la manière qu'il est mort, il va dire certainement, celui-là était le Fils de Dieu. Parce que Jésus nous a fait connaître Dieu par sa manière d'être, sa manière de vivre, sa manière de mourir, en demandant encore au Père de pardonner ses bourreaux. Jésus a rendu Dieu extrêmement concret par ses enseignements, par ce qu'il est, par ce qu'il a vécu comme genre de vie. Et la raison est simple pour ça, c'est Dieu le Fils. Donc avec Noël, ce Dieu invisible, qu'on a de la difficulté à saisir, à comprendre, est devenu visible pour nous. On peut le voir à travers sa vie, à travers tout ce qui nous est rapporté de sa vie ici. Dans l'Évangile de Jean, un petit peu plus loin, un passage que j'aime énormément, il est avec ses disciples, c'est vers la fin, c'est avant son arrestation, au moment où il va être crucifié, tout ça. Et puis, il est en train d'essayer de préparer ses disciples à ce moment-là. Et dans Jean 14, versets 8 à 11, je vais vous les lire. Un de ses disciples lui dit, c'est Philippe qui parle, il lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui répondit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. » C'est énorme là, comme déclaration. Philippe lui dit, « Montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, « Montre-nous le Père » Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. » Écoutez bien ceci, croyez du moins à cause de ses œuvres, des œuvres que Jésus faisait. Parce qu'à travers les œuvres que Jésus faisait, il était en train de nous révéler le Père. Parce qu'il procédait lui-même du Père. Voyez-vous, Dieu est venu vers nous et nous n'avons pas à le chercher à tâtons comme si c'était impossible de le connaître et comme si nous étions pris avec cette réalité qu'il est simplement un esprit. C'est lui qui est venu vers nous. Et lorsqu'on parle avec des gens et qu'ils nous disent qu'ils sont en train de peut-être chercher Dieu, qu'ils essaient de trouver Dieu, puis de se démêler dans tout ça, la première chose à comprendre avec Noël, c'est que ce n'est pas moi qui vais vers Dieu. C'est lui qui est venu vers nous. Parce qu'il savait très bien que nous ne voyons pas l'invisible. Nous avons de la difficulté à saisir ces choses que nous ne voyons pas. Il est donc venu vers nous, sous la forme d'un enfant, il est devenu un adulte et il a parlé de Dieu comme aucun homme a parlé de Dieu parce qu'il est Dieu le Fils. Et il a démontré Dieu, qui est Dieu par sa vie, par ses actions, comme aucun autre homme ne pouvait le faire parce qu'il est Dieu le Fils encore une fois. J'aimerais ça vous lancer un défi. Je sais que pour certains d'entre vous, vous côtoyez des chrétiens, vous êtes peut-être dans une famille chrétienne, puis vous regardez la foi de vos proches puis vous dites, c'est pas concret cette affaire-là pour moi. Toi, quand tu fermes tes yeux, tu parles à Dieu. Quand moi, je ferme mes yeux, je parle au vide. Parce que j'ai pas cette foi-là que toi, tu as. J'aimerais ça vous lancer un défi. C'est vrai que le Québec est en train de perdre le sens de Noël. Noël, je veux dire, c'est pas des cadeaux, là. Noël, c'est la naissance du Christ. Donnons-lui un autre nom si on ne veut pas que ce soit ça. Inventons-nous la fête des cadeaux. On va tous se donner des cadeaux à Noël. C'est ça qu'on aime. Mais quand même, culturellement, pendant des siècles au Québec, lorsqu'arrivait Noël, on se rappelait de la venue du Christ. Alors j'aimerais ça te lancer un défi pendant la période des fêtes. Moi, je crois profondément que tu n'as pas à chercher de midi à 14 heures pour trouver Christ. Pour trouver Dieu, parce qu'il s'est fait connaître à travers la personne de son Fils. Alors, le défi que je voudrais te lancer, et honnêtement, c'est le plus beau cadeau que je pourrais te faire, c'est de t'encourager à lire un des quatre évangiles. Parce que je sais, cette réalité, dans un sens, est encore là. Jésus est toujours pas là. Je veux dire, si on jasait ensemble, la première chose que tu me dirais, c'est « Ouais, mais il est pas là, là. Tu sais, s'il était là, OK. » OK, Dieu est esprit, il est venu sous la forme de Jésus. S'il est encore là avec moi pour dîner, concret, j'embarque. Il n'est pas là, fait que c'est encore un esprit. Nous avons sa parole. Alors, le défi, c'est le suivant. Pendant les fêtes, cette semaine, prends-toi une Bible. Il y a 4 évangiles dans la Bible. Tu as le choix. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Tu veux y aller short and sweet, prends Marc. Ça va aller vite. Un après-midi, gros café, petite coupe de vin, n'importe quoi. Vas-y, Marc. Tu veux voir l'humanité de Jésus. Prends l'évangile de Luc, c'est plus long un peu, par exemple. Tu veux rentrer dans la mystique de Jésus, voir tous les mystères, la richesse qu'il y a en lui. Mon évangile préféré, Jean. Prends l'évangile de Jean. Tu veux découvrir Jésus lorsqu'il est percutant pour qu'il vienne te provoquer. Prends l'évangile de Matthieu. Mais pendant la période des fêtes, prends un des 4 évangiles. Assis-toi, lorsque tout le monde est en train de faire la sieste l'après-midi, là, parce que la veille a été difficile, là. Tu prends ta Bible ou le matin avec un gros cappuccino. Je t'inviterais bien, là, mais je ne serais pas dans le coin pour te faire ton cappuccino. Puis lis un évangile. Lis-le tranquillement. En te posant la question, est-ce que cet être-là, ça se pourrait vraiment qu'il soit hors norme, qu'il soit aussi merveilleux que les chrétiens disent? Est-ce que ça se pourrait que Dieu se soit révélé à travers lui et qu'il soit plus qu'un grand penseur, un philosophe? Et le défi que je te lance, c'est de venir me donner des nouvelles après. Envoie-moi un courriel. Si tu me dis après ça, bon, j'ai lu, tu sais, lui ou un autre, pff, OK, c'est correct. Je respecte ça, moi. Pas de problème. Mais je crois que tu vas découvrir quelqu'un qui est absolument fascinant. Et si je projette ça un petit peu plus loin dans le temps, bien, il y a 2 fêtes importantes pour les chrétiens, d'accord? Noël, Pâques. Fait que si il semble se passer quelque chose dans ton cœur, dans ton esprit, en lisant un évangile pendant les fêtes, pourquoi pas continuer? Lisant un autre encore. Et si tu y vas tranquillement comme ça, je serais pas surpris qu'à Pâques, dans 4 mois d'ici, tu dises, wow, je veux connaître ce Jésus-là vraiment. Parce qu'à part qu'on va fêter sa mort et sa résurrection, ce qu'il y a de plus important dans son ministère. Alors, c'est le défi que je te lance pour les fêtes. Prends un évangile, prends le temps de le lire. Et je ne serai pas surpris qu'au fur et à mesure de ta lecture, au fur et à mesure où tu vas connaître ce personnage-là vraiment pour ce qu'il est, tu vas expérimenter ce qui est mentionné au verset 12 et 13 de Jean 1. Parce que ce Jésus-là est non seulement venu nous faire connaître Dieu, mais il est venu nous donner la possibilité de devenir enfant de Dieu. Et donc, il se peut qu'au fur et à mesure que tu sois en train de lire les évangiles, que tu découvres qui est Jésus-Christ, quelque chose de profond en toi se produise. On appelle ça dans notre jargon biblique la nouvelle naissance. En comprenant qui est Jésus-Christ et ce qu'il est venu faire. Parce que voici le pouvoir qu'a Jésus-Christ, versets 12 et 13. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Nous n'avons plus à chercher Dieu à tâtons, parce qu'il est venu vers nous. Ce que Jean nous dit ici, c'est que nous avons à le recevoir, à l'accueillir, à croire en lui. Et pour ceux qui sont chrétiens, la majorité d'entre vous, on arrive dans la période des fêtes. Christ est reparti, c'est vrai, il est reparti au ciel. Notre mandat à nous, c'est d'être comme Christ, d'être comme lui à présent. Jésus est venu, il était la parole de Dieu, il nous a parlé de Dieu comme personne ne pouvait parler de Dieu. On a bu ses paroles, on a connu Dieu à travers les paroles de Jésus. On a découvert le Père dans toute sa beauté, dans tout son amour, sa miséricorde, sa compassion. C'est à notre tour maintenant de parler, parce que nous avons son esprit. C'est à mon tour à présent de parler de Jésus à partir des Écritures, afin que les gens puissent découvrir Dieu à leur tour. Alors parle, ouvre la bouche, interpelle les gens. C'est Noël, c'est le temps de le faire. C'est la grâce qui nous est faite à nous maintenant d'être en quelque sorte l'incarnation de Christ. En ouvrant la bouche à notre tour, comme Jésus a parlé du Père. Mais non seulement en parole, en action aussi. Parce que Jésus nous a fait connaître le Père par un style de vie qui était complètement contre-culturel. En aimant ses ennemis, en faisant du bien à ceux qu'il maudissait, en demandant au Père de pardonner ceux qui étaient en train de le mettre à mort, en étant généreux, en allant vers tous les hommes également, pas simplement ses amis, pas simplement ses proches, en accueillant des gens, en accueillant ceux qui sont accueillis nulle part. Et c'est à notre tour de le faire à présent, puisqu'il nous a laissé son esprit et il nous a donné cette mission d'aller faire connaître Jésus-Christ, afin que d'autres personnes puissent connaître Dieu le Père à leur tour. Tu vas aller dans ta famille pendant les fêtes, peut-être qu'il y a des conflits de famille qui sont là. Tu as une opportunité en or, extraordinaire, de faire connaître Dieu le Père à travers les conflits de famille. Parce que Jésus nous a fait connaître Dieu le Père en étant sur la croix et en disant « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Tu vas aller dans ta famille, puis il y a des gens peut-être qui sont mal à l'aise, il y a des gens qui sont en train de s'intégrer dans la famille. Peut-être qu'il y a des gens qui ne font plus partie du cercle de la famille. Ils sont juste plus appelés parce que si tu savais tout ce qu'ils ont fait à ta famille, c'est sûr qu'on ne les appelle plus ceux-là. Je ne sais pas, vous comprenez? Mais concrètement, par votre attitude, avec ton frère, avec ta sœur, tu es constamment en conflit dans tes relations. Tu peux faire connaître Dieu à 12, 13, 14, 15 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, concrètement en ressemblant à Jésus. Puis après ça, en parlant de lui, afin que des gens puissent connaître Jésus-Christ. Et vous savez quoi? À Noël, ce Dieu invisible-là va devenir concret pour eux. Et ils vont pouvoir vous demander, « Parle-moi un peu plus de Jésus, mon Jesus freak. J'aimerais ça entendre parler de ton Sauveur. » Tu vas lui dire, « Je te lance un défi pour Noël. Prends une Bible, puis lis un des évangiles. Il y en a quatre, bon. Je peux te conseiller sur celui que tu voudrais lire. » On va prier ensemble. Éternel notre Dieu, merci. Merci, Seigneur Jésus, d'être venu vers nous, Seigneur. Merci de nous avoir aimés pour venir dans notre faiblesse. Toi, le Dieu invisible, tu es venu vers nous, Dieu le Fils, pour devenir très concret et visible à nos yeux, Seigneur. Et lorsque je lis tes évangiles, je n'ai pas l'impression de parler avec quelqu'un d'abstrait, d'entendre parler d'un être qui est inatteignable. Mais je découvre un Dieu que je veux aimer, que je veux servir, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, d'être venu vers nous à Noël. Merci d'être venu vers moi, Seigneur, en te révélant à moi à travers tes évangiles. Et je prie, Seigneur, pour chacune des personnes dans cette salle. Viens te révéler à eux à travers les évangiles pendant la période des fêtes, Seigneur. Qu'ils découvrent quel être merveilleux tu es, Seigneur. Et que Noël prenne un sens réel à présent pour eux. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.